La Libre Antenne sur Europe 1, Sana Blanger.
Accueillons tout de suite Stéphanie. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci.
Qu'est-ce qui vous arrive Stéphanie?
Alors moi, je voulais ce soir vous raconter une histoire de violence conjugale dont j'ai été la victime.
Oui.
Et je suis en train de me relever doucement.
Bon, bah déjà je suis désolée de ce qui vous est arrivé.
Et, merci.
Et tout oui pour écouter votre résilience.
D'accord. C'est un garçon que j'ai rencontré au travail. On est tombés amoureux assez rapidement et on s'est installés ensemble. On avait les mêmes envies au niveau but de vie, lieu de vie. Voilà, donc ça allait assez vite. On pensait vraiment être tombé sur la bonne personne. Et...
Une évidence. Comme une évidence.
Voilà.
Ouais.
Ouais, à peu près ça. Enfin, ça se passait vraiment bien au début. Et les violences et la jalousie maladive sont arrivées pendant ma première grossesse.
Stéphanie, est-ce que vous acceptez que je vous pose des questions?
Oui, bien sûr.
Relatives à cette période-là, ce qui n'est pas forcément agréable.
Oui,
d'accord. Vous avez rencontré cet homme il y a combien de temps?
Alors, ça fait maintenant pratiquement 6 ans.
Et les premières violences sont apparues au bout de combien de temps?
Donc, au bout de 1 an, pendant ma première grossesse.
Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs ou vraiment ça vous est tombé dessus, mais comme une masse?
Ben, moi, j'ai rien vu. Mais maintenant, je me rends compte qu'en fait, il y avait des choses à voir. Sur le moment, j'étais complètement amoureuse, j'avais les yeux fermés. Mais ça m'est tombé dessus. Voilà, c'est-à-dire que j'ai réellement fermé les yeux, j'ai dû mettre des œillères sur des petits détails qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille. À ce moment-là, j'avais des œillères parce que j'étais amoureuse.
D'où l'amour est aveugle, enfin rend aveugle, n'est-ce pas?
Oui, complètement.
Donc,
complètement dans mon cas.
Oui, bah, comme beaucoup d'ailleurs. Ouais. Comme beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors ces premières violences qui n'en avaient pas l'air, c'était des crises de jalousie pendant ma première grossesse parce que bah, pendant un congé maternité j'étais à la maison, il s'imaginait que des hommes venaient me voir chez nous alors que j'étais enceinte. Bon. Et donc c'était des cavalcades de violences, de hurlements.
C'était de la violence,
oui, violence verbale,
ouais.
Psychologique, ouais. Provoquée par son alcoolisme. C'est-à-dire que c'était exponentiel. Hein. Les soirs où il avait bu, c'était exponentiel comparé à d'autres soirs où il n'avait pas bu, où il était quand même jaloux, mais où là, j'arrivais à lui ramener un peu les pieds sur terre. À lui dire, oh, réveille-toi mon gars, c'est avec toi que je vis. Mais voilà, les soirs d'alcool, c'était invivable, quoi. Il finissait par partir. Pour ne pas me taper dessus, il finissait par prendre son KTM et partir, réveiller tout le quartier.
Ah
et
oui.
Il partait dormir ailleurs.
Qu'est-ce que vous ressentiez à l'époque?
À ce moment-là, j'étais triste.
Ouais.
Terriblement triste. Mmh. Je dormais toute seule dans notre lit alors que j'étais enceinte, que j'avais besoin de lui énormément. Mmh. J'avais un grand besoin de soutien, d'amour. Enfin voilà, c'est dur une première grossesse.
Bien sûr.
En tout cas, jaloux et c'était complètement injustifié d'être jaloux de moi,
ouais.
Encore plus à cette période-là, parce que enfin, je ne l'ai jamais trompé, j'ai jamais donné sens à ce genre de doute. Et enfin voilà, c'était complètement injustifié, encore plus alors que j'étais enceinte de 6, 7, 8 mois, enfin on s'imagine la baleine que j'étais échouée sur mon canapé toute la journée.
Bon, il y a d'autres images plus sympathiques, mais en tout cas, c'est pas comme ça que vous imaginiez votre première grossesse. J'imagine que c'était plus voilà, dans le cadre plutôt à deux, dans un environnement sain, avec beaucoup d'amour,
oui.
Du soutien. Ouais.
Voilà, là, c'était complètement l'inverse. Enfin, pas complètement, vu qu'il y avait des moments où il était sympa quand même.
Voilà, c'était la question que je voulais vous poser. Oui, il y avait un peu d'éclaircie dans.
Oui, c'est ça.
Ouais.
C'est ça, ouais. Ça, en fait, ça faisait des hauts et des bas. Mmh. Et je passais mon temps à espérer les hauts et à espérer que les hauts restent longtemps.
Je comprends. Et ensuite ?
Notre fille est née, notre premier enfant. J'ai repris le travail assez vite.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Alors, j'étais jardinière à ce moment-là. Ah. Là, je ne le suis plus.
D'accord.
Je n'arrive pas, en fait. Comme il est jardinier aussi, j'ai l'impression que toutes les connaissances lui appartiennent. Je n'arrive pas à pratiquement moitié.
Ah, vous n'arrivez plus à vous réapproprier, en tout cas.
Ouais. Je n'arrive pas à pratiquer mon métier. Ça ne m'appartient plus.
Je comprends.
Très difficile à expliquer.
Ça peut sembler en tout cas tout à fait logique par rapport à une forme de rejet total de ce qui a pu se passer. Et si en plus là, vous êtes dans une forme de résilience, forcément, il y a des ancrages, il y a des gestes que vous faites, il y a des odeurs que vous, qui reviennent, ouais, hein, et qui probablement vous rappellent des moments qui sont en lien direct avec cette période terrible que vous avez et dramatique que vous avez vécue. Donc forcément...
Ouais.
On a envie de s'éloigner de tout ça. Vous avez votre première fille. Il est présent ou pas près de vous ?
Oui, il est présent. Oui, il est présent pendant l'accouchement aussi. C'était pas un accouchement facile. Il est présent tout le long. Il me soutient dans mon projet d'accouchement à domicile. Donc là, il est très présent à ce moment-là.
Et comment est-ce qu'il accueille sa fille ?
Alors, il l'accueille... Oui, il l'accueille bien. Ah, excusez-moi, il y a mon bébé qui se réveille.
Oui.
Il y a le deuxième qui se réveille.
Ah. Alors, Stéphanie, moi, ce que je peux vous proposer, c'est vous occupez de vos enfants et vous nous rappelez plus tard. On vous attend de toute façon. Entre-temps, on accueille d'autres auditeurs. Ça vous va ?
Ok.
Oui ?
Ça y est, il est dans mes bras, ça va mieux.
Ça va ?
Désolée.
Non, mais... Oh ben non, je vous en prie. Non.
Petit chou.
Les aléas du direct.
Oui.
Et puis comme ça, voilà, votre enfant est avec nous, il participe un petit peu.
Oui. Donc là, c'est le deuxième qui est avec nous.
D'accord.
Alors, on en était où ?
On en était à la question que je vous demandais, c'était que je vous ai posée, c'est comment est-ce qu'il a accueilli sa fille ? Vous nous avez dit... bien, plutôt bien.
Oui. Voilà. Oui, plutôt bien.
Et malgré cette arrivée, ce moment extraordinaire, il a continué à boire ?
Oui.
Oui.
Oui. Il n'a jamais arrêté, en fait. Donc, jusqu'à ce que je quitte la maison, il n'a jamais arrêté de boire.
Donc un problème d'alcoolisme, manifestement.
Oui.
Ouais.
Oui. Ensuite, les hauts, les bas ont continué. Je gardais espoir. On a acheté ensemble. On a acheté une maison quand notre fille avait un an. La jalousie a continué, même là-bas. On est parti vivre à la campagne. Ça continuait, même en ayant un lieu de vie qui nous faisait rêver tous les deux. Il arrivait toujours pas à avoir confiance. C'était une petite campagne. J'allais au marché acheter du fromage de chèvre. Et même ça, c'était compliqué parce que ceux qui vendent le fromage de chèvre, c'est des hommes, c'est des agriculteurs. Donc, à force, je m'interdisais même d'aller faire le marché.
Ah oui.
Je me suis complètement désociabilisée. Je ne sortais plus de ma petite maison. Et faire le cadre de violence continuer, la jalousie. Il disait à notre fille, bientôt maman te présentera ton nouveau papa.
Oui.
Par exemple.
Stéphanie, pour quelle raison est-ce que vous avez accepté ? À partir du moment où vous vous êtes rendu compte que cette relation ne vous élevait pas, pour quelle raison vous avez accepté ça ?
Une fois qu'il y a eu notre fille, je me suis sentie piégée pour elle. Je culpabilisais de lui enlever son père. Je culpabilisais de devoir me séparer. d'avoir fait cette erreur, d'avoir choisi ce père-là pour elle, et de devoir maintenant nous séparer et détruire la famille. Je culpabilisais encore, encore aujourd'hui, et je culpabilisais terriblement. Ouais, je n'ai pas fini mon travail.
Oui, mais ça va venir tout doucement, forcément.
Donc, il y a une violence très forte aussi. Il a tiré au fusil sur le terrain. Il m'a secoué avec notre bébé, notre deuxième bébé. Je l'avais dans les bras. Il nous a secoué tous les deux pour me jeter dans l'escalier.
Donc, vous êtes partie quand même sur un deuxième enfant, un projet d'un deuxième, malgré
non,
tout.
Non, c'était pas un projet, en fait. Il n'était pas voulu, le second. Mais une fois que j'étais enceinte, j'ai pas avorté.
Et encore une fois, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?
À quel moment ?
Quand quand vous avez appris que vous étiez enceinte ?
J'étais triste.
Ouais. Est-ce qu'au fond de vous, vous aviez envie de partir ou pas ?
Oui. Oui. J'en avais terriblement envie. Mais comme je vous dis, je culpabilisais pour ma fille. Et on avait monté un gros projet ensemble. Un projet presque agricole. C'est-à-dire que j'étais en train de monter un projet agricole sur le terrain. Donc, c'était quelque chose auquel je tenais beaucoup. Mmh. Et auquel je tiens encore. Hein, parce que là-bas, sur le terrain, il y a tous les arbres qu'on a plantés. Il y a mes tunnels. Hein, c'est des serres agricoles. Il y a tout le matériel pour créer une exploitation. Et je suis partie, j'ai laissé tomber tout le projet de ma vie.
Oui, donc il y avait beaucoup de choses à la fois sur l'aspect, accomplissement professionnel et en même temps en tant que femme, en tant que mère qui jouaient finalement, qui ont influencé votre...
Juste quitter un petit copain, voilà. C'est détruire une famille, détruire un projet de vie, pas simplement un projet professionnel, un projet de vie.
Donc le deuxième enfant arrive, qui est avec nous. Pareil, les violences, vous nous dites, il vous a secoué.
Pareil, ça continuait avec lui. Mais toujours avec des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où leur papa allait bien, des périodes où j'arrivais, entre guillemets, à le rassurer. Et des périodes où ça n'allait pas. Particulièrement les soirs de pleine lune. Beaucoup la lune.
Et ça a été quoi le déclic ?
Le déclic...
Parce que là, je me dis...
Le déclic, il est venu
seule.
Assez tôt.
Ouais.
Le déclic est venu assez tôt, mais j'ai mis du temps à franchir le cap. C'est-à-dire que je le savais depuis longtemps que c'était pas possible, que je pouvais pas vivre dans cette violence et je pouvais pas accepter qu'on élève des enfants dans cette violence. Mais il me fallait du courage pour quitter tout ça.
Le fameux courage. Votre entourage, il était au courant, conscient de ce qui vous arrivait ?
Alors, oui, une petite partie. C'est-à-dire que j'appelais souvent mon père et sa femme et c'est eux qui étaient au courant de ce qui se passait. C'est eux qui nous ont accueillis une dizaine de fois pour venir nous réfugier chez eux. Et là, c'est chez eux qu'on vit depuis 8 mois.
D'accord. Donc, vous êtes chez votre papa ?
Ouais.
Ouais. Donc, vous avez porté plainte ? Ou qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui. Oui, j'ai porté plainte 2 jours après être partie.
Vous êtes partie parce que tout à coup, vous nous dites avoir trouvé du courage. Ce courage, ça a été quoi ? Ça a été
Ça a été un soir de plus, en fait. Un soir de plus dans les violences. Mais Mon vase était plein.
Ouais.
Et je lui disais que là, c'est plus possible. Enfin, vraiment, il manquait plus qu'une goutte. Et la goutte, mais c'était pas de la violence plus forte que d'habitude. Hein. Mais voilà, c'était juste un soir de plus. Et ça durait. C'est-à-dire que là, ça faisait 3 jours qu'il était dans un état extrême. Enfin, les veines sortaient de son visage changeait. J'avais plus la même personne face à moi.
Mmh.
Il faisait ça régulièrement, mais là, ça continuait pendant 3 jours. Les enfants avaient peur, moi j'avais peur. On était terrifiés face à lui. Il enfermait notre fille dans la cave pour la punir dans le noir. Enfin, c'était assez terrible. Et là, depuis 3 jours, enfin, depuis 3 nuits, je ne dormais pas. J'imaginais qu'il allait venir me tuer dans mon sommeil. Et je suis certaine qu'il est capable de le faire. Ensuite, il a fait beaucoup de menaces de mort. Notamment, il a dit à notre fille, « Bientôt, je vais venir voir maman avec un fusil pour lui régler son compte. » Bon, maintenant, il a interdiction de détenir des armes pendant 5 ans. Mais 5 ans, c'est bientôt.
Parce que c'était il y a combien de temps, tout cela ?
Cette menace de mort-là, c'était il y a 3 mois.
Ah oui, parce que là, vous nous dites que ça fait 8 mois que vous avez quitté le foyer.
Ouais.
Vous êtes réfugiée hein, chez votre père.
Je suis réfugiée chez mon père.
Et donc, il y a
3 mois.
Et
lui vit chez nous. Oui, il y a 3 mois, il continuait les menaces de mort.
J'ai pas très bien compris. Qui vit chez vous ?
Ah oui, lui, voilà. Mon ex.
D'accord, d'accord. Je viens de comprendre. Donc, il vit chez vous.
Ouais.
D'accord.
Voilà. Il vit dans notre maison. Il a gardé notre maison. Donc, je paye toujours le crédit, ce qui m'empêche de me reloger.
Donc, vous avez quitté la maison. Vous avez porté plainte ?
Oui. Oui, il y a eu 4 plaintes, du coup.
4 plaintes.
8 mois. 4 plaintes, oui, parce que la première pour violence conjugale. Ensuite, 2 plaintes pour menace de mort. Et une plainte parce qu'il a changé les serrures de la maison et de la boîte aux lettres pour m'empêcher de venir récupérer les affaires des enfants et mon courrier.
D'accord. Et quand vous y alliez, vous étiez toujours accompagnée, j'imagine ?
Non, j'y allais pendant ses horaires de travail.
Ah, d'accord. Ok. Avec, j'imagine, cette boule au ventre de tomber
sur
lui.
Ah oui, bah oui. Ouais. Ben, boule au ventre, puis de revoir... De revoir mon lieu de vie, de revoir mes chiens, mes chats que j'ai dû abandonner, ses chevaux. C'est compliqué.
Je comprends. Je comprends et je suis vraiment désolée de ce qui vous arrive, Stéphanie. Je peux imaginer la difficulté, la peine. Vous parliez de culpabilité également.
Ouais.
On ne refait pas le passé. On ne refait pas le passé, forcément. Et quand on aime une personne, on ne peut pas avoir ce sentiment de culpabilité d'avoir aimé quelqu'un. Vous avez fait ce choix, vous avez découvert une personne qui était certainement différente de celle que vous avez pu imaginer. Vraiment, j'aimerais tellement vous aider à comprendre que ce n'est pas de votre faute. Vraiment. Et vous l'avez dit au début, vous êtes bien une victime. Et je le dis pour toutes les auditrices, et tous les auditeurs qui sont victimes de violences conjugales, vous n'êtes pas fautif. Ce n'est pas de votre faute. Quand on va vers quelqu'un, quand on est soi-même très sain, on ne peut pas imaginer qu'en face, ça se passe mal. C'est vraiment... Et puis, en plus, quand on est sur des personnes qui, j'allais dire, narcissiques ou pervers narcissiques, ou en tout cas, ils sont tellement forts là-dedans. Tellement bon à nous manipuler et à nous faire croire que avec eux la vie va être magnifique, voire magique. Vous vous en voulez pourquoi d'y avoir cru ? Vous aviez le droit à du bonheur aussi ?
Oui.
Ben oui.
Oui, j'espérais. Ben, j'espérais le bonheur pendant cette relation.
On dit que l'espoir fait vivre. C'est certainement ce qui vous a fait tenir pendant toutes ces années, 6 ans, près de lui. Avec, en plus, vous nous avez dit, il y avait des éclaircies, il y avait des projets. Donc, il y a à la fois de l'autodestruction et en même temps de la construction. C'est pas évident tout ça, de trouver un juste milieu, ouais. De se dire mais elle est où la vérité entre ce fait d'avancer comme ça à deux, de construire, et puis d'avoir quelqu'un qui déconstruit tout en même temps. Mais alors, c'est la terre brûlée, hein, pour le coup. C'est vraiment la terre brûlée.
Ouais.
Vous en êtes où alors aujourd'hui ? Il est où maintenant ?
Alors, il est où ? Bah, il vit toujours chez nous, dans notre maison. Mmh. Il bloque un petit peu la vente. C'est-à-dire qu'en faisant traîner les réponses de mail entre avocats interposés, voilà, ça bloque un petit peu la vente. Depuis, on est passé devant le juge des affaires familiales.
Oui.
Qui lui a enlevé l'autorité parentale. Il peut voir les enfants en lieu neutre, sous surveillance.
Et en lieu neutre, sous surveillance, il a osé exprimer le fait qu'il allait vous retrouver et
alors,
lui faire
ça,
passer un sale moment à votre fille.
Ça, il lui avait dit avant le lieu neutre. C'est-à-dire que pendant D'accord. les deux premiers mois, il prenait notre fille chez nous un week-end sur deux.
Ouais.
Donc ça, c'était à ce moment-là, avant le lieu neutre. Parce qu'entre le moment où j'ai quitté la maison et le JAF, il s'est passé 3 mois.
Stéphanie,
le temps que la machine judiciaire se mette en route.
Est-ce que vous voulez bien nous expliquer comment, parce que ça reste vraiment le gros point d'interrogation à chaque fois quand j'entends des histoires comme les vôtres. Comment peut-on laisser ou donner un droit de garde à quelqu'un qui a commis des violences conjugales? Comment peut-on laisser ou donner un droit de garde à des personnes qui sont violentes? Comment est-ce que vous l'expliquez et qu'est-ce qu'on vous a donné comme explication? Moi, je ne comprends toujours pas. Vraiment, je ne comprends pas.
À ce moment-là, il n'y avait pas eu de jugement. Donc à ce moment-là, on n'était pas passé devant JAF. Il avait autorité parentale autant que moi, donc je n'avais pas le droit de lui refuser. Vous voyez la nuance ?
Malgré les plaintes.
Malgré les plaintes.
Incroyable.
On n'était pas encore passé devant le juge, donc je n'avais pas le droit de lui refuser les enfants.
Ah, d'accord. Ok.
Voilà.
Oui, parce qu'il est... D'accord, je comprends.
Il était sous contrôle judiciaire déjà à ce moment-là. Ça, c'était dès la première plainte, à peu près un mois ou deux après, comme je vous dis, le temps que la machine judiciaire se mette en route.
Oui, parce qu'il est présumé innocent, en fait.
Contrôle,
ouais.
Oui, c'est ça.
Oui.
Donc, il était quand même sous contrôle judiciaire, hein, étant donné la gravité des faits, toutes les armes qui ont été saisies et les violences qui ont été quand même reconnues. J'ai eu un téléphone grave danger.
Ah, c'est ce dont parlait. Vous avez écouté la Libre Antenne la semaine dernière ?
Non.
Nous avons eu justement le témoignage d'une personne qui, comme vous, malheureusement, a subi des violences conjugales et elle a eu le droit également à ce téléphone.
Oui.
Qui vous le procure, qui vous le donne, ce téléphone ?
Alors, c'est le tribunal.
D'accord.
C'est une association d'aide aux victimes qui fait la demande, en fait. Du moment où on pose une plainte, on est dirigé vers des associations,
D'accord.
différentes associations. Moi, cette association, j'y suis allée notamment pour un groupe de parole où j'ai rencontré plusieurs femmes, dans mon cas, sur ce groupe de parole. Et c'est cette association qui a un bureau au tribunal qui m'a fourni le téléphone.
D'accord.
Dans un tribunal.
Et ça s'appelle un téléphone ?
Grave danger.
Grave danger. D'accord.
Donc c'est un téléphone classique.
Mmh.
Voilà, ça peut être un Samsung, un Nokia, quelque chose de très classique. Qui a un bouton d'alerte.
Comment est-ce que vous faites pour essayer, je peux imaginer, essayer de retrouver de la sérénité et de la sérénité dans votre quotidien?
C'est le temps. C'est vraiment le temps qui fait. Vraiment, oui. le temps, et, c'est le temps qui m'aide à oublier.
Et les enfants, comment vont-ils ?
Et les enfants vont mieux. La première est suivie,
oui.
Écologiquement, mmh. Ça va mieux. Moi aussi. Et le petit, il a 19 mois maintenant.
D'accord.
Donc, par chance, il n'a pas trop eu le temps d'être traumatisé. Voilà. Le petit va bien.
Mmh. Votre fille, ouais, vous l'avez sentie perturbée
Ah oui, complètement.
Ouais.
Complètement. C'est des cauchemars horribles. Elle se réveillait les premiers mois, elle se réveillait chaque nuit. Bah, les deux enfants d'ailleurs, hein, mmh. se réveillaient dès que je quittais la pièce. On hébergeait dans une chambre chez mon père. Et donc, dès que je quittais la pièce pour aller aux toilettes ou faire quoi que ce soit dans la nuit, les deux enfants se réveillaient pendant plusieurs mois.
Ils devaient être même très collés à vous d'ailleurs.
Oui, oui, très, ouais. très, très collés à moi. Ouais. La grande était un petit peu apeurée pour un oui, pour un non. Mais bon, l'avantage, c'est qu'elle verbalise. Elle parle, elle dit vraiment les choses qui lui font peur. Elle le dit très clairement, donc ça nous aide à travailler dessus.
Oui. Bon,
récemment, elle a émis la peur, c'était la semaine dernière, elle a émis la peur que papa puisse encore venir me tuer.
Ah oui, en effet. Oui, les... Il va y avoir un peu de temps avant de cicatriser émotionnellement, déjà.
Ouais.
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 Et vous, est-ce que, par rapport à ce que vous nous disiez au tout début, quant au fait que vous avez du mal à retrouver votre travail, est-ce que vous avez trouvé des solutions psychocorporelles pour vous faire du bien ? Alors, psychocorporel, c'est-à-dire du yoga, de la méditation
Alors, oui, un petit peu. Avant de retravailler, parce que maintenant je retravaille, alors j'ai plus l'occasion de faire ce genre d'activité, j'ai plus le temps. J'ai une vie 200 à l'heure, une maman célibataire. Mm-hmm. Mais j'ai fait sur la plage, j'oublie le nom, enfin c'est un peu du yoga, non, du stretching.
Oui, très bien.
Voilà, c'était très agréable.
Est-ce que vous sentez que vous recommencez à prendre goût à certaines choses, à vous reprojeter, à aller vers de la visualisation positive. Hein, on appelle ça de la visualisation positive. Donc, est-ce que voilà, vous reprenez de l'espoir
Alors, oui, mais c'est tout récent. Voilà, vous m'en parlez pile au moment où ça arrive.
D'accord.
Voilà, c'est tout récent. D'ailleurs, l'association qui m'a fourni le TGD va peut-être me loger
très bien.
Dans les jours qui arrivent. Donc, je vais peut-être avoir un logement à moi, pour moi et les enfants. Donc, ça va être un nouveau départ, hein, comme on dit.
Oui, vous allez ouvrir le champ des possibles. Fantastique.
Voilà.
Oui, ouais, ça, c'est une bonne chose pour vous. Ça va être vraiment...
voilà.
Ça va vous permettre de vous reconnecter et à vous-même et puis d'avancer, de continuer à aller de l'avant.
Oui, tout à fait. Mais ça, ouais, comme je vous dis, c'est vraiment tout neuf parce que j'ai fait quand même, je pense, une grosse dépression. Ça a duré, hein, je pense, 6 mois.
Oui. Vous continuez à être accompagnée
Oui, un petit peu.
Un petit peu.
Un petit peu, mais je n'en ai pas trop le temps, étant donné que je travaille.
Mmh. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?
Je suis serveuse dans un restaurant.
D'accord. Ah, très bien. Donc, le contact.
Oui, voilà.
Ouais.
J'avais besoin de ça.
Ah oui. Ah ouais, très bien. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est le plus
J'avais
important.
J'avais besoin d'un métier léger.
Ouais. J'aime beaucoup votre notion de la légèreté, avec les amplitudes horaires, le rythme... Très bien, c'est sûr que c'est peut-être plus léger par rapport à ce que vous faisiez avant.
Ouais.
Stéphanie, merci infiniment pour ce témoignage très fort, très poignant. Forcément, je vais vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez transmettre, donner aux auditeurs qui malheureusement vivent la même chose et ne trouve pas ce courage que vous avez eu.
Voilà, mon message, c'est un message d'alerte. Ne restez pas si vous êtes dans mon cas et ne tombez pas dans ce genre de filet.
D'accord. Merci Stéphanie. Je vous souhaite, nous vous souhaitons le meilleur. Et vraiment, la Libre Antenne est votre émission, donc donnez-nous de vos nouvelles. Nous serons ravis de vous avoir. Alors, juste avant de partir, de nous quitter, vous avez reçu un SMS. Alors, il n'est pas signé, mais je vais vous le lire. Donc, je le découvre en même temps que vous. Bonsoir. Oui. Face à des personnes aussi toxiques et incontrôlables, il n'y a que la fuite possible pour vous protéger et protéger vos enfants. Vous finirez par vous reconstruire. Faites-vous suivre par un thérapeute bienveillant, la kinésiologie. C'est ce que l'auditeur vous recommande au 739-21. Merci infiniment et vraiment Stéphanie, nous vous souhaitons le meilleur.
Merci, bonne soirée.
À vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.